Nous allons donc maintenant aborder la session des questions-réponses et comme le veut la tradition, la première question de ce jour devra être adressée à notre invitée de ce jour, Djamila Seftawi. Donc ici à Kinshasa, qui veut poser une question à Madame Seftawi? Oui, je vois une main qui s'élève.
Merci pour la parole, c'est Saint-Germain des Prés pour le compte d'Elaïs Hebdo. Durant tous ces mois-ci, il est question de la femme autour du thème international, penser équitablement, bâtir intelligemment et innover pour le changement. Est-ce qu'on peut savoir ce que le bureau Jean de la Monusco compte bâtir pour le compte de la femme congolaise? Merci.
Vous l'aurez remarqué, notre soutien est un soutien d'appoint à la RDC et aux forces vives de ce pays, que ce soit les partenaires gouvernementaux, les partenaires de la société civile ou les femmes activistes elles-mêmes. Donc nous ne sommes pas là pour bâtir pour la RDC ou pour bâtir pour le Congo, sinon pour faciliter et pour aider. Les exemples que je viens de donner peuvent vous donner un contexte. Par exemple, prenons l'exemple des médiatrices. Comme vous le savez, dans le monde entier, il y a très très peu de médiatrices femmes qui participent au désamorcement et la résolution des conflits interethniques et armés dans des pays comme le vôtre. Or, on sait très bien que dans plus de 35% des cas où, quand les femmes sont impliquées, la résolution des conflits est durable. Les femmes, en général, elles ont une valeur ajoutée parce qu'elles sont capables de dépasser les égaux, elles sont capables de dépasser des territoires, que ce soit ethniques ou tribales, pour pouvoir chercher l'apport des autres, de l'autre partie, pour des objectifs communs, en général, qui ont trait à la sécurisation de la vie des familles, et des communautés et l'instauration d'une paix durable pour elles et pour leurs familles.
Merci. Nous poursuivons avec une deuxième question ici à Kinshasa. Albert.
Peut-être je vais parler de la femme, mais...
Est-ce que tu peux te présenter? Parce que moi, je te connais, Albert, mais tout le monde ne te connaît pas.
Albert Roman, America Télévision. Madame, vous venez de nous éclaircir sur tout ce qui est comme activité de... Bureau genre pour la femme congolaise. Moi, je voudrais un peu insister sur le fait que les dispositions que le bureau genre prend pour surtout soutenir les femmes vulnérables qui sont victimes de violences sexuelles, et en amont comme en aval, c'est-à-dire auprès de violeurs et de l'autre côté, auprès des victimes. Quelles sont les dispositions que le bureau genre prend pour vraiment protéger et réduire le nombre de violences faites à la femme? Merci.
Vous parlez des violences sexuelles?
Voilà, madame.
Oui. Je ne l'ai pas dit, mais à la MONUSCO, nous avons la tâche de la prévention des violences sexuelles revient au bureau des droits humains et assurée par un autre département. Ceci dit, nous travaillons étroitement ensemble. Comme je l'ai expliqué, le bureau Jean de la MONUSCO a une tâche interne, mais qui rejaillit en termes d'impact vers l'extérieur et notamment sur les femmes dans leur totalité dans le pays. Je m'explique. Nous soutenons les institutions, les entités à l'intérieur de la MONUSCO afin de comprendre que l'efficacité et la qualité de leurs services vis-à-vis des populations congolaises, aussi en termes de prévention de la violence sexuelle, ne peut pas avoir lieu de manière satisfaisante si on fait abstraction des femmes ou des hommes. Nous travaillons étroitement aussi et de manière intense sur le rôle des hommes parce qu'ils sont partenaires au bien-être des femmes. Les hommes et les femmes sont partenaires, ils ne sont pas des ennemis. Sauf que quand les femmes souffrent les violences, comme vous venez de l'expliquer, on a besoin de changer les mentalités et on travaille sur les rôles des hommes. Donc nous, mon bureau, s'attelle à la formation de tout le personnel de la MONUSCO, y compris le personnel de la force, le personnel de la police et les membres de la force de la MONUSCO civile, afin de comprendre et de faire en sorte que quand ils font le design et quand ils font la formulation de leur programme, ils y inscrivent dès le début et de manière continue les besoins et la situation des femmes et des hommes, des filles et des garçons, afin de pouvoir y répondre de manière appropriée.
Nous essayons de nous rendre à Goma en espérant pouvoir entendre votre question. Goma, c'est à vous.
Oui, moi c'est Papi Okito du journal Écho d'Opinion. Ma question, je l'adresse à Madame Florence. Bientôt, il y aura la fermeture de certains bureaux de la MONUSCO en RDSO d'ici le 30 juin. Est-ce que la MONUSCO va encore se renforcer à l'est, là où il y a encore de l'insécurité, notamment à Beni et dans le sud Kivu, mais aussi quel sera l'essor de la radio Kapi dans des zones où ces bureaux seront fermés? Merci, madame.
Alors, je voudrais déjà replacer les choses dans le contexte. Vous affirmez certaines choses qui, pour l'instant, n'ont pas encore été décidées. Comme je l'ai dit en ouverture de cette conférence de presse, la représentante spéciale se trouve actuellement à New York, où des discussions sont en cours pour le renouvellement du mandat de la MONUSCO, qui, comme vous le savez, s'achève le 31 mars prochain. Donc, il y a des discussions pour savoir quel sera notre prochain mandat et quel sera le budget qui accompagnera ce mandat. Donc, pour l'instant, je vous propose qu'on fasse tous preuve d'un petit peu de patience. C'est une histoire de quelques jours. Et puis, attendons, laissons les consultations en cours entre les États membres, les autorités congolaises qui sont également présentes à New York et la MONUSCO. Donc laissons ces consultations et le secrétariat des Nations Unies, bien évidemment, laissons ces consultations se poursuivre, se terminer. Attendons l'adoption de la prochaine résolution et voir exactement quel sera le contour exact de la mission dans les prochains mois. Et d'ailleurs, dès que dans les semaines qui suivront l'adoption de cette nouvelle résolution, la représentante spéciale du secrétaire général, Madame Zerougui, viendra devant vous pour expliquer cette nouvelle résolution. On revient ici à Kinshasa avec une question ici sur la gauche. Madame.
Merci. C'est Elvira Ponce pour le compte de la RTL. Ma question s'adresse à Madame la porte-parole. C'est en rapport avec les rapports publiés hier par la mission d'enquête spéciale de l'ONU qui détaille les violences de décembre dernier dans la province du Maïndoumbé. Selon les allégations reçues par le BCNUDH, vous l'avez d'ailleurs dit dans votre introduction, 535 personnes auraient été tuées et de milliers d'autres déplacées. Tandis que les rapports publiés hier par l'ONU nous dit que le nombre réel de victimes serait probablement plus élevé. Il met donc en cause les rapports publiés par le BCNUDH. Comment expliquez-vous ça? Merci.
On parle du même rapport et des mêmes personnes. C'est le même bureau conjoint des Nations Unies qui a publié le rapport qui a été rendu publié hier, et ce sont les mêmes qui avaient avancé les informations de 535 personnes. Donc il n'y a absolument pas de hiatus entre les deux informations. L'équipe s'est donc rendue sur place pour pouvoir enquêter, et comme vous le savez, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, les enquêteurs travaillent selon une méthodologie éprouvée. Ils n'avancent en nombre de victimes que les cas qu'ils ont pu documenter. Donc là, ils ont pu documenter 535 victimes. En revanche, ils ont reçu des témoignages et selon ces témoignages, des personnes auraient vu des personnes, d'autres personnes, soit jetées dans le fleuve Congo, soit qui auraient péri sur des embarcations de fortune en voulant traverser le fleuve pour se réfugier sur des îlots ou sur la République congolaise voisine. Mais ce sont des cas qu'ils n'ont pas pu documenter. Donc c'est la raison pour laquelle, dans le rapport, il est clairement, et il n'y a eu une fois encore qu'un seul rapport, celui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Dans ce rapport, il est donc mentionné, nous avons pu documenter au moins 535 victimes, mais les informations que nous avons recueillies nous laissent entendre et nous laissent croire qu'il y a vraisemblablement plus de victimes, mais une fois encore, ces victimes n'ont pas pu être documentées. Nous prenons encore une question ici à Kinshasa. Oui, monsieur.
Roger Marley de Lukunga pour Elima News. Question à madame Jamila Saftawi. Madame, la parité devient une réalité qui s'incruste difficilement en République démocratique du Congo, malgré la stipulation de la Constitution du 18 février 2006. La représentativité des femmes reste toujours précaire dans les institutions de prise de décision en République démocratique du Congo. Selon vous, quelle stratégie serait la mieux indiquée pour accélérer cette parité? 1. Les listes zébrées. 2. La cooptation. 3. La priorisation des candidatures féminines dans l'engagement à l'administration publique. 4. La réservation des places privilégiées aux femmes. Laquelle des stratégies trouvez-vous
s'il
la
vous
mieux
plaît.
Indiquée?
5.
J'ai une réponse globale à cette question-là et primordiale. Comme vous le savez, votre pays a des dispositions législatives relativement fortes en ce qui concerne la participation des femmes dans l'arène politique. Par exemple, un quota de 30% de représentation des femmes dans les institutions de l'État a été inscrit déjà dans l'accord de Saint-City en 2002. Le principe de représentation équitable, paritaire, à 50%, 50-50, est énoncé dans la Constitution. Et une loi sur la parité a été adoptée en 2015. Mais ces dispositions sont dépourvues de force législative. Et c'est ça le problème. D'une part, nous savons que c'est le cas dans plusieurs pays du monde. Et la RDC n'est pas un pays isolé dans cette question-là. D'une part, nous avons l'éducation politique de toute une génération qui ne crée pas de place pour les femmes, qui les exclut et qui ne fait pas état d'une appréciation différenciée, parce que les femmes, ils n'ont pas démarré dans la compétition pour les postes politiques au même pied d'égalité que les hommes en RDC. Quand il y avait des générations qui s'exerçaient déjà, et depuis l'époque coloniale, à se préparer pour des élections, à avoir le mot à dire et avoir des positions dans le secteur public, les femmes n'avaient presque même pas l'accès à l'éducation, tout court. Les femmes avaient à elles la charge des familles, des tâches ménagères, la reproduction, la sécurité de la vie de la famille et la gestion de tout le budget de la famille et des enfants, l'éducation des enfants. Donc on ne peut pas parler d'une compétition à pied d'égalité. Et donc de ce côté-là, il faut des générations d'éducation politique afin qu'on accepte cette réalité-là et afin que les femmes, les nouvelles générations de jeunes femmes accèdent au pouvoir de l'éducation et apprennent à négocier leur partenariat avec les hommes afin de créer des possibilités pour elles de s'épanouir et de prendre, d'avoir plus de temps, d'avoir plus de fonds, de pouvoir économique, avoir des visions et des ambitions. Ça, d'une part. D'autre part, il y a la responsabilité de l'État et la responsabilité des institutions de l'État de droit dans un pays. Et c'est ce qui consiste à donner vie et une vie réelle aux dispositions législatives que le pays a et qui sont, comme je viens de dire, qui sont fortes. Par exemple, le quota, plusieurs pays de par le monde entier est passé par le quota afin d'habituer la classe politique à la présence des femmes, afin de leur donner l'occasion de voir la différence que les femmes font, parce qu'elles vont mettre sur la table d'autres contributions, d'autres idées politiques pour faire avancer le pays. Le pays ne peut pas avancer avec des idées d'un sexe aux dépens de l'autre, ou dans des salles qui sont complètement mono, par exemple seulement des femmes ou seulement des hommes.
Nous allons à Goma pour deux questions. Ah, on ne vous entend pas, Goma. Bon, je suis désolée, Goma. À nouveau, nous ne vous entendons pas ici à Kinshasa, donc on reste ici à Kinshasa. Et oui, Crispin, le monsieur qui est juste qui tend le bras vers toi.
Merci, c'est venant à vous dire ça. Je suis de la RTNC. Florence, c'est à vous que je m'adresse. Sauf inattention de ma part, Madame Leila Azerougui, lors de sa première rencontre avec le nouveau chef de l'État, l'avait dit, avait promis un soutien au gouvernement congolais. Monsieur Antonio Guterres l'avait également dit lors du sommet d'Addis Abeba, après au sorti de l'audience qu'il avait accordée au nouveau chef de l'État. Maintenant, la question qu'on se pose, de quel soutien sera-t-il question cette fois-ci, connaissant les besoins énormes de notre pays, surtout les défis auxquels on doit faire face? Certainement, ça doit être financier. Soyez concrète, Florence, dans votre façon de répondre.
Qu'est-ce que tu insinues? Que je ne suis pas concrète? Alors, je vais te donner des informations concrètes. Madame Azerougui a rencontré maintenant, au moment où on se parle, à trois reprises, le président Tshisekedi. Donc, ils ont eu l'occasion, lors de ces trois rencontres, d'évoquer à la fois les sujets d'actualité, le processus électoral qui est toujours en cours, j'y ai fait référence, les groupes armés qui souhaitent déposer les armes, mais aussi la configuration actuelle et future de la MONUSCO. Donc j'en reviens aussi aux discussions qui sont actuellement en cours à New York entre toutes les parties prenantes, donc je l'ai dit, les autorités congolaises, le Conseil de sécurité, le secrétariat de l'ONU, pour justement définir quel sera le prochain mandat de la MONUSCO et quel sera donc le soutien que la MONUSCO apportera, continuera à apporter dans les mois qui viennent au gouvernement congolais. Mais on a déjà des pistes par rapport à cette question qui nous tient vraiment à cœur, qui est celle des groupes armés qui, dans certaines provinces du pays, ont souhaité rendre leurs armes. C'est un processus que nous souhaiterions accompagner. Nous souhaiterions accompagner les autorités congolaises pour pouvoir faciliter la réintégration de ces ex-combattants dans leur communauté. Et nous l'avons fait savoir aux autorités congolaises. Donc il y a des opportunités pour permettre à ce pays de s'ancrer vraiment dans la stabilité. Et évidemment, l'un des rôles de la MONUSCO, actuel et à venir, c'est de pouvoir saisir ces opportunités et de pouvoir accompagner le gouvernement congolais dans la réalisation des opportunités. Mais une fois encore, voilà, je ne vais pas être complètement assez concrète, à mon avis, à tes yeux. Vous le savez, les mandats des missions sont décidés par le Conseil de sécurité et nous sommes une mission de mise en œuvre et tout cela est en discussion actuellement à New York. D'ici une semaine ou deux, on y verra tous beaucoup plus clair. Et évidemment, autre facteur très important, c'est la formation du gouvernement. Je crois qu'il est important que ce gouvernement puisse être formé rapidement afin que opération et qu'il soit opérationnel également aussi rapidement, afin que le programme du président Tshisekedi puisse être mis en œuvre et répondre, et ainsi répondre aux multiples et aux nombreuses attentes des populations congolaises. Et là aussi, c'est de notre responsabilité à tous de ne pas décevoir les populations congolaises. Nous allons prendre une question sur la gauche. Madame.
Merci, Mimi Chiloutete. Vous venez, CCTV, vous venez de le dire sincèrement, vous n'allez pas décevoir la population congolaise parce que c'est votre mission. Vous savez bien que le nouveau président avait promis la libération des prisonniers politiques. Le délai était pour hier mardi. Vous, tant que la MONUSCO, parce que quand on parle de la MONUSCO, on voit directement la paix. Quelle démarche faites-vous pour voir le chef de l'État pour lui demander qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est depuis hier, la population attend de résultats pour ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il peut dire, répondre à la population par rapport à ça?
Alors, c'est un dossier qu'effectivement la MONUSCO suit attentivement, notamment via son bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, donc ce dossier des prisonniers politiques et d'opinion. En novembre dernier, nous avions envoyé un courrier à ce sujet au ministre de la Justice en établissant la liste, selon nous, des prisonniers politiques et d'opinion qui étaient encore détenus. Cette correspondance a été suivie de plusieurs rencontres entre la MONUSCO et le ministre de la Justice, la dernière ayant eu lieu la semaine dernière. Donc c'est vraiment un processus que nous suivons attentivement, mais vous le savez, à la fin, c'est le ministre de la Justice qui décide de ces libérations. Et je voudrais aussi ajouter que dans le cadre des bons offices de la représentante spéciale, évidemment, elle les poursuit. Elle a indiqué qu'elle poursuivait ses bons offices afin de faciliter cette transition politique. Donc elle continue à rencontrer toutes les parties prenantes. Donc c'est un dossier que nous suivons, mais nous influençons, nous donnons des informations, mais à la fin, ce sont les autorités en place qui prennent les décisions et nous ne pouvons pas nous substituer aux autorités en place. Alors, encore un essai avec Goma. Une question, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? Non, je crois qu'on est maudit avec Goma aujourd'hui. On va prendre une question ici sur la droite avec Radio Okapi.
Oui, c'est Jean-Pierre Ilali de Radio Okapi. Je voudrais revenir à Madame.
Jean-Pierre, je suis désolée de te couper. Il nous reste 3 minutes avant de rendre l'antenne, donc une question très courte et une réponse rapide.
Oui, c'est en rapport avec justement ce qu'elle a appelé les réseaux des femmes qui font la médiation. C'est quelque chose de nouveau. Je voudrais savoir de quelle médiation il s'agit précisément. Et lorsqu'on est en face des groupes armés, combien de femmes sont en train de faire cette médiation? Et comment cela s'est fait concrètement? Parce que ces femmes peuvent se trouver devant les groupes armés lorsqu'on sait que le taux de nocivité est plus élevé par rapport aux agressions sexuelles ou aux violences sexuelles.
Jamila, vous avez une petite minute pour répondre.
Oui, voilà, je vais être rapide. À Djougou, par exemple, on a un réseau de femmes médiatrices qui ont réussi à transcender les différences ethniques pour former un groupe de part et d'autre des partis qui étaient en tension et en conflit les uns avec les autres. Et ils ont réussi à désamorcer la situation et à suggérer un plan d'action et ainsi de suite. Et ils sont partis d'un village à l'autre pour pouvoir ramener le message de la paix et le message de la réconciliation. Nous avons au total, la deuxième question, formé un réseau de 300 médiatrices. Ce sont des femmes que nous choisissons avec nos partenaires, nos collègues des affaires civiles dans les communautés et qui sont, elles, déjà habituées à faire partie des mécanismes de réconciliation au niveau communautaire.
Merci Djamila. Je souhaiterais m'excuser à la fois auprès des collègues présents à Goma qui n'ont pas pu s'exprimer aujourd'hui, qui nous ont entendus. Nous allons tout mettre en œuvre pour pouvoir corriger ces défaillances techniques. Je voudrais m'excuser également auprès des auditeurs de Radio Okapi, mais vous remercier tous pour votre participation à cette conférence de presse. Je vous souhaite une belle journée à tous et à toutes. Merci.